Et heureuse de vous retrouver tous pour cette deuxième et dernière partie de la Grande Table dans l'actualité des idées aujourd'hui. Une femme qui a du style, Marielle Masset, chercheuse en littérature, directrice adjointe du Centre de recherche sur les arts et le langage, associée rattachée au CNRS et à l'EHESS, professeure de littérature à l'EHESS et à l'ENS. Dans Style, avec un S, critique de nos formes de vie, paru chez Gallimard, vous interrogez la notion de style comme le titre de l'ouvrage l'indique. Alors ce n'est pas un livre sur la mode, sur le vêtement, mais une réflexion sur la vie que nous souhaitons vivre dans toutes ses formes, des allures qui sont déjà autant de partis pris selon vous, ces façons de vivre, nous les portons ou nous les combattons, qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui nous rapproche, partant comme Paul Ricoeur du principe qu'une notion littéraire peut faire émerger un concept anthropologique, moral et politique. Vous vous situez, Marielle Masset, à la croisée de la littérature, de l'anthropologie et de la sociologie. Cet essai vient par ailleurs peut-être conclure un travail entamé il y a longtemps, avec Façon de lire, Manière d'être, paru chez Gallimard en 2011, mais aussi en 2010, vous aviez dirigé un numéro de la revue Critique sur cette même notion et publié depuis plusieurs articles sur ces questions. Bonjour à vous. Merci. Bonjour. D'être avec nous. Et avec Antoine Mercier qui est à mes côtés pour vous interroger. Marielle Masset, quand on dit qu'un écrivain a du style, peut-être on peut commencer par camper un petit peu le décor. Avoir du style, c'est pas simplement qu'une manière d'écrire. Pour vous, c'est aussi une manière de conduire sa vie et de se positionner les uns les autres. Il va falloir commencer peut-être par un effort de définition. Qu'est-ce que vous mettez dans ce grand sac, ce grand mot de style ?
Alors déjà, je pourrais remarquer la tension qu'il y a entre cette expression « avoir du style » et le titre au pluriel que j'ai voulu donner à ce livre. Avoir du style, ça signifierait que le style est quelque chose comme une substance, une qualité, quelque chose dont on se revêt, quelque chose que certains gagnent et que d'autres ne parviennent pas à conquérir. Donc moi, je ne dirais presque jamais, en fait, qu'un écrivain a du style. J'essaierais d'entrer dans un effort qui est toujours très compliqué de description, de son, de sa manière de faire, de son style, de ses styles, de la tension qui existe entre plusieurs de ses styles. J'essaierai voilà, d'entrer sur cette arène du comment, de tous les comment de son écriture, qui en effet peut engager beaucoup plus que la forme de ses phrases, mais aussi une manière de se tenir dans le temps, une façon d'affronter les questions de son époque, ou au contraire de les taire et de s'en dégager. Mais en tout cas, j'essaierai de combattre ce sentiment que voilà, qu'il faudrait inviter chacun à la manière des écrivains, qui seraient comme des guides dans cette sorte de conquête esthétique souveraine, à avoir du style. Non, c'est peut-être pas l'essentiel de l'affaire.
Et dans ce mot style, tel qu'on l'entend, on y voit une marque très personnelle, presque très individuelle. Vous, très rapidement, dans cet essai, Marielle Masset, justement, vous ouvrez le champ des possibles avec vos styles et l'idée qu'il y a quand même tout un collectif que le mot style peut englober. Hein. C'est-à-dire que derrière le style, il y a ce qui est à nous, ce qui fait aussi nos personnalités, mais il y a aussi notre manière de côtoyer l'autre, de se rapporter les uns aux autres.
Oui, alors d'emblée, en effet, il me semble que ce qui est intéressant dans la question du style ou des manières ou des gestes ou des rythmes ou des formes, c'est qu'ils ne se superposent pas à l'individu qui les porte ou qui les investit ou qui les expose. Et donc c'est toujours la chance qu'un individu a d'être dépassé par sa propre pratique. C'est ce qu'il a de singulier, mais ce qui en lui excède sa singularité. C'est pas son identité, ça serait son style. Son identité, ouais. Ce serait ce à quoi il... Pardonnez-moi, je vous coupe. Ce à quoi il... Ce qui fait qu'il reste identique à lui-même en permanence. Son style, ses styles, sa lutte avec la question du style, c'est au contraire les idées de forme, les idées de vie qu'il ne cesse de tenter d'exposer et qui peuvent lui échapper, qui peuvent être reprises par d'autres, qui peuvent être caricaturées, mais qui peuvent être amplifiées et qui diffusent, en effet.
Des façons d'habiter son corps, ses lieux, sa ou ses langues, son pays, des modes relationnels, des rythmes, des environnements, des liens dont on veut vraiment, de ce que l'on est en droit de juger ou d'espérer, écrivez-vous à Marielle Masset. Juste, vous distinguez trois types de styles, modalités, distinctions, individualisation, ou plutôt le style comme modalité, comme distinction ou comme forme d'individualisation. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Et après, je laisse la parole à Antoine Mercier.
Oui, alors effectivement, bon, c'est un livre qui cherche à mettre de l'ordre dans cette question des formes de vie, des styles de vie, des modes d'être, puisqu'il m'est apparu que depuis Balzac, Baudelaire, Nietzsche, jusqu'à Bourdieu, Agamben, et jusqu'au slogan actuel par lesquels on est appelé à réclamer d'autres manières de vivre, il m'a semblé que la question du style était venue massivement investir la description de la vie et la description de la vie qu'il nous faut, dont on veut, celle qui compte. Et à partir de ce constat, je me suis surtout aperçue que cette question des modes d'être, des styles de vie, ce n'était jamais simplement une affaire de description, c'était toujours une affaire d'engagement. C'est-à-dire qu'en décrivant les vies, en cherchant à comprendre leur forme, en cherchant à comprendre leur comment, c'est pas seulement qu'on prenne acte d'un aspect de nos vies, c'est aussi qu'on prend parti entre plusieurs attentes possibles que l'on peut avoir à leur égard. Et donc j'ai essayé d'ordonner des positions concurrentes chez les écrivains, chez les sociologues, chez les anthropologues, entre ce que tel ou tel est prêt à définir comme un geste, est prêt à recevoir comme un rythme collectif désirable. Et effectivement, j'ai différencié trois approches possibles entre un regard modal, un regard distinctif et un regard, alors non pas individualisant, mais individuant, ce qui est un petit peu différent. Le regard modal, le fait de considérer les formes de vie comme autant de modalités d'être, c'est ce qui m'est apparu chez des penseurs ou des écrivains comme Ponge, mais comme Mauss, comme Canguilhem, comme Bruno Latour, comme Certeau, qui comprennent la vie comme un engagement continu de forme. Il n'y a pas de vie, il n'y a que des modes de vie.
Et vous dites qu'il est même important d'observer la pluralité, d'observer la pluralité des styles de vie et des valeurs.
Ici, la question, c'est justement de sans cesse être attentif et protéger une sorte de peuple des modes d'être, de foule des modes d'être. Et la valeur, là, c'est le pluriel. C'est le pluriel et c'est le sentiment de la vulnérabilité, en fait, de chaque allure de la vie, comme le disait Canguilhem.
Et dans le style comme distinction, il y a l'idée un peu plus sociologique, cette fois, de s'approcher de cette forme, hein, comme révélation aussi d'une vérité sociale.
Oui, c'est ça.
Et dans cette troisième catégorie, ce troisième type de style que vous définissez, le style comme individuation et non individualisation, comme je l'ai dit effectivement juste auparavant, c'est aussi la question de voir comment le sujet peut se réengager en soi ou dans le monde. Antoine Mercier.
Oui, j'aurais peut-être besoin un peu de concrétude, faire un peu Monsieur Jourdain. Bon, vous nous parlez des écrivains, des sociologues,
plaît,
des philosophes,
plaît,
et oui. Moi je me demande finalement, comme vous parlez de singularité, chacun ayant la sienne, ça, quelque chose excède de nous-mêmes et va se manifester dans un style, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du style de Monsieur Tout-le-Monde, de la manière dont ça peut se passer, qu'est-ce que ça recouvre précisément dans ces manières de faire concrètement, celui qui n'écrit pas, celui qui ne pense pas forcément pour écrire des livres, par exemple.
Oui, alors, précisément, je ne parle pas des styles artistiques ou des styles d'écrivains. Lorsque je parle des écrivains dans ce livre, c'est pour montrer la façon dont certains d'entre eux sont particulièrement attentifs au style de tout le monde. Et ces questions, elles sont engagées, par exemple, dans le regard qu'on peut porter sur les gestes au travail. Est-ce qu'on considère que la forme d'un geste au travail, c'est comme une sociologie de la domination le montre abondamment, que c'est la répétition par un individu de la manière qu'il était appelé à adopter, de la manière déterminée qu'il est condamné à avoir ? Ou est-ce qu'on considère qu'un geste au travail, c'est un moment de léger infléchissement de ces formes contraintes ? Est-ce que c'est un moment où l'individu se réapproprie quelque chose de son propre rapport à soi ?
Cette alternative-là, vous dites que chacun doit la choisir, ou est-ce qu'il faut avoir conscience que effectivement, on ne fait pas que de la répétition, mais qu'on imprime quelque chose de personnel ?
On cherche justement à regagner un peu de liberté dans le rapport aux formes de nos vies, dans le rapport au rythme de nos vies.
Et c'est ça le style de chacun ?
Oui, c'est ça la question du style de tous, de nous tous.
Alors justement, le philosophe Michel Foucault voulait faire de l'existence un art et un style. Vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? Un courant esthétique, une nouvelle éthique, une forme, une manière de vivre ?
Moi, je mets un problème, en fait, derrière ce mot. C'est-à-dire que la chose principale qui m'a intéressée, c'est de voir à quel point on a ces mots-là en partage quand on veut parler justement de ce qui nous rassemble ou de ce qui nous divise. Quand on parle aujourd'hui des conflits entre formes de vie, par exemple, j'ai essayé de comprendre ce qu'on dit quand on dit ça. Notre mode de vie est menacé, on s'attaque à notre mode de vie, on entend des choses comme ça.
Donc
j'ai essayé de nommer,
oui, j'ai essayé de nommer un problème
qui est ce terrain du comment de la vie. Et j'ai essayé de l'arracher, disons, à un registre esthétisant, où ces mots-là n'auraient de sens qu'à être entendus comme un appel au beau, un appel à embellir sa propre vie, à s'esthétiser soi-même, comme des mots qui sont essentiellement des mots de la publicité ou des mots de l'univers de la mode, etc. J'ai essayé de montrer qu'en fait, ce sont des mots qui sont essentiels dans un champ beaucoup plus vaste et beaucoup plus engageant, beaucoup plus grave aussi, qui est celui de la forme qu'on souhaite pour nos vies quotidiennes.
Alors justement, quel type de forme peut-on souhaiter pour nos vies quotidiennes ? Comment se distinguer ? Comment, là encore, je dirais comme Antoine Mercier, expliquer concrètement ce qu'on peut choisir à travers ça ? Comment on peut le manifester, ce style ?
Alors, on peut prendre l'exemple qui a été, même pas commenté, mais qui a été électrisant et qui a créé beaucoup de réactions et de débats il y a peu de temps, l'exemple du burkini. Voilà, une façon d'apparaître, une façon d'être, une façon d'apparaître dans l'espace public lié à un vêtement. J'espère qu'une réflexion comme la mienne, qui essaye de se demander ce qu'on voit quand on voit un vêtement, se demander ce qu'on reçoit comme message qui nous est adressé quand on regarde un vêtement. Voilà, j'espère qu'une réflexion comme la mienne peut ouvrir un petit peu quelque chose. Le burkini, c'est à la fois une affaire de modeuse et une affaire de spiritualité. C'est une façon de se montrer tout en montrant qu'on se cache.
Manière de rendre visible la pudeur, presque.
D'exhiber la pudeur. C'est un vêtement à l'intérieur duquel des femmes essayent de lutter contre elles-mêmes, entre des déterminations contradictoires, d'appartenir à la fois au présent le plus présent et de partager un espace public comme celui de la plage, et puis en même temps de continuer à appartenir, à dire quelque chose de leur appartenance, de ce qu'elles perçoivent comme leur culture. C'est voir ce vêtement comme autre chose qu'un stigmate ou qu'une adresse agressive adressée aux autres femmes ou qu'une marque d'appartenance, et le voir au contraire comme une espèce de petite maison où chacune lutte avec des attentes très très contradictoires et assez révélatrices de tensions contemporaines. Il me semble que c'est, voilà, pour le coup très concret.
Donc en fait, il faut bien comprendre, vous ne prenez pas de position sur les formes de vie, mais vous les regardez, les analysez. Et pourquoi est-ce qu'est-ce que ça change finalement de voir les choses sous cet angle-là ?
Ça change beaucoup de choses d'en prendre conscience du fait que justement la question des formes de vie est un terrain d'engagement, un terrain de conflit, un terrain de parti pris, de refus, de goût et de dégoût. Et il me semble que prendre conscience de ça, du fait que nos modes d'être sont la première expression de notre vie morale, de notre volonté politique, Et il me semble que ça peut changer beaucoup de choses. De ne pas se confisquer à soi-même cette affaire-là.
Mais parfois, à nos corps défendants, en fait, justement, est-ce qu'on n'a pas tous conscience d'émettre, finalement, de produire un style qui parle de nous
Oui, ou qui nous conteste. Enfin, on n'a pas du tout à être d'accord avec soi-même en permanence. Justement, c'est un terrain toujours explosif, parce que on fait pas semblant d'avoir un air, on a un air. Et l'air qu'on a, il dit tout ce qu'on est, jusque dans la façon dont on se conteste soi-même, dont on n'est pas d'accord avec soi-même.
Oui, on voit bien effectivement la phénoménologie de la personne qui se manifeste donc par ce style dont vous parlez, ces formes de vie. Mais vous dites qu'il faudrait prendre conscience et en même temps vous parlez d'engagement. En quoi la prise de conscience constituerait-elle un engagement ?
Ben, faut savoir ce qu'on veut. Faut savoir ce qu'on veut mettre sous ce terme de mode de vie. La manif pour tous, voilà, qui continue avec force et fracas.
C'était ce week-end encore. Hein.
On entend beaucoup ça, qu'on doit affirmer un mode de vie en respectant certaines continuités traditionnelles, biologiques, etc. Moi, j'essaie de dire, voilà, c'est vraiment ça la forme de vie qu'on veut. Et est-ce que réfléchir vraiment à la façon dont on vit, ça serait pas ouvrir toute porte battante ce problème?
Parce que pour le burkini, ça vous pose pas de problème, et la manif pour tous, tout de suite, ça vous pose un problème, cette manifestation?
Oui, le burkini, par exemple, ce qui m'a posé problème, c'est qu'on ait imaginé l'interdire. Ce qui me paraît curieux, de vouloir mettre hors la loi la contradiction
Tandis que la manif pour tous,
elle n'a été sous le coup d'aucune interdiction de dire ce qu'elle avait à dire, et qui était de superposer de façon, il me semble, très très limitante, l'idée de nos modes de vie avec une identité, avec une fixité, avec un rapport aux traditions qui serait la réponse au problème du comment vivre, comme si on pouvait répondre avec cette simplicité-là, il faut vivre comme ça. Mais non, on ne peut pas répondre comme ça.
France Culture, il est 13h13 exactement. C'était beau, il fallait le dire. Vous écoutez La Grande Table.
Quel style.
Et notre invité, quel style, est effectivement Marielle Massé pour son ouvrage Style avec un S, critique de nos formes de vie, qui vient de paraître chez Gallimard.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Tout le propos de votre livre, Marielle Massé, et vous le disiez avec Antoine Mercier, n'est pas de prescrire telle ou telle forme de vie, de nous dire quelle forme de vie est juste, bonne, morale, éthique ou ne l'est pas, mais de quelque part nous aider à prendre conscience de ces qualifications des formes de vie et de vivre, et puis finalement de rouvrir ce débat du comment. Alors vous dites le style ne renvoie pas seulement à la description, c'est aussi quelque chose d'assez prescriptif, de programmatique. Il nous renvoie à ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire. En quoi ?
Il y a une version assez brutale ou violente de ça, c'est tout l'univers de la publicité. La publicité qui ne vend pas tellement des produits, mais plutôt les styles de vie qui vont avec. Et ici, ce qui nous est proposé, disons, comme bien désirable à l'achat, c'est tout un univers de valeurs, d'objets dont on s'entoure, de modes relationnels, quel genre de famille, quel genre de personne être, quel genre de femme. Il y en a quand même assez peu des genres de femmes possibles dans l'univers de la publicité. Donc ici, en effet, la question du style, elle est très très prescriptive.
Et là, c'est toute la question de la confiscation de ce style ou de ces formes de vie. Vous estimez que ce mot, et évidemment ce qu'il contient, a été confisqué par un certain nombre d'acteurs, voire abandonné, et notamment, vous le dites, avec la publicité, à l'univers marchand. Mmh. À quelle fin ? C'est-à-dire, celui qui détient nos styles, quel pouvoir a-t-il ?
Bah, il a le pouvoir de nous dicter nos désirs, parce que les désirs, ça se dicte. Ce à quoi on va adhérer en profondeur peut nous venir du dehors. Moi, il me semble que c'est plutôt l'école, en fait, qui a abandonné le terrain du style, comme si c'était quelque chose de trop élitiste, d'un peu chic, qui soit réservé justement au prestige de la littérature ou des arts.
Comment ça a disparu? Comment vous dites?
Parce qu'on c'est un mot qu'on craint un petit peu de prononcer dans l'école. C'est un mot trop distingué, justement. On préfère avoir affaire à des exercices plus techniques ou plus neutres, où la question de la beauté, de la valeur ne se poserait pas tellement.
Et donc de la subjectivité.
Oui, ou tout simplement de la possibilité critique. Mmh. Mais donc, ce sont des mots qui effectivement se sont beaucoup réfugiés dans l'univers marchand. Mon livre partage un titre avec des magazines de lifestyle. Enfin, j'ai voulu me réemparer de ce mot-là, tout simplement parce que il est de fait très très présent dans le vocabulaire social et politique. Et donc j'ai essayé de rouvrir ce mot à d'autres sens possibles et de montrer qu'on peut considérer avec plus de sérieux, plus de patience, plus de gravité toutes ces questions qui sinon sont un petit peu bâclées.
Pourtant, vous renvoyez ceux qui critiquent un peu, parce que là vous frôlez un petit peu, le côté réactionnaire que vous dénoncez par ailleurs dans le livre, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous inscrire dans l'idée que tout se dégraderait, que le style petit à petit disparaîtrait sous les coups de boutoir à la fois de l'identité et de la marchandisation généralisée, et vous nous dites « Je ne veux pas acquiescer à l'idée d'un appauvrissement de l'expérience. Non, l'expérience ne s'appauvrit pas, ça n'a pas de sens. » Bon, c'est une phrase que vous citez de Michaud. Ça veut dire que finalement, même si ça se dégrade, c'est pas grave, si je vous comprends bien. Il y aura toujours une façon de rebondir autrement.
Alors, l'idée de l'appauvrissement de l'expérience, c'est un diagnostic qui a été posé depuis longtemps, depuis Benjamin, chez Adorno, chez Pasolini ensuite, qui ont eu le sentiment qu'il y avait un rétrécissement, en fait, des chances d'avoir une expérience dans la vie quotidienne.
Et donc d'avoir du style finalement aussi.
Oui, enfin disons
d'adhérer
à sa forme de vie avec maîtrise, avec contrôle, avec conscience, en ayant conscience du sens qu'elle a et de ce qu'elle pourrait devenir. Et effectivement, je veux rendre hommage à ces auteurs en colère qui diagnostique sans cesse des pertes, qui documente des pertes. On ne fait plus comme ci, on ne fait plus comme ça, etc. Je veux rendre hommage en eux au désir d'observer tous ces gestes de la vie quotidienne, mais je les quitte à l'extrême moment où ils en restent à un discours de la déploration. Parce qu'effectivement, je pense que ça n'a pas de sens de dire il n'y a plus de style, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus tel style ou il n'y a plus telle expérience.
C'est ce que vous dites pour l'école, pourtant, par exemple. Alors, où est-ce qu'il y a un nouveau style qui se crée, peut-être, à l'école?
Alors là, on fait tourner le mot un peu à vide en égarant peut-être un peu, en l'utilisant un peu trop. Tout à l'heure, j'essayais de dire que l'école, que l'apprentissage de la littérature souhaite faire l'économie de cette question du style, faisant donc l'économie de la question de la valeur.
Alors justement, pour comprendre ça, quel est le rôle pour vous, du coup, des écrivains? Rappelons que vous êtes quand même aussi professeur de littérature, vous venez de cet univers-là. Est-ce qu'on peut dire que les écrivains, pour vous, sont quand même quelque part à l'avant-garde du style, donc de cette définition des formes de vie?
Il me semble que certains d'entre eux sont très très attentifs à ce plan-là de la vie. Et ceux dont j'ai voulu parler, Michaud au tout premier chef, Ponge, Balzac, sont très attentifs à ça. C'est-à-dire qu'ils sont très attentifs à leurs propres gestes. Michaud, par exemple, a un très beau texte qui s'intitule « Bras cassé ». Il explique comment, s'étant cassé le bras droit, il a découvert en lui un homme gauche. Il a découvert ce qu'il appelle son style gauche, c'est-à-dire tout un autre registre de lui-même. Il me semble que seul un poète peut avoir cette audace de dire « Je suis tombé, seul mon homme gauche s'est relevé et j'ai enfin pu découvrir mon style gauche ». J'ai voulu, honorer aussi la façon dont dont Baudelaire se bat avec les rythmes de la vie moderne, avec les modes d'exposition de la vie moderne, dont Naples regarde partout où il va, les décors, les costumes, les gestes, et toujours, et je reviens à ce que j'essayais de dire tout à l'heure à propos du burkini, toujours il est attentif à la façon dont un individu se bat avec lui-même dans sa seule façon de nous apparaître. Et donc effectivement, je trouve qu'il y a une patience, un sérieux dans le rapport au pluriel, qui est bien porté en littérature.
Et alors vous avez cité, sans le nommer, le style comme expérience, ce qui renvoie à un écrivain qui vous est cher et que vous citez aussi dans votre ouvrage, Pierre Bergougnou. On va l'écouter évoquer l'idée justement du style à la base déjà d'une certaine forme de domination, et on en reparle.
L'écriture, le fait d'écrire, a produit un style, celui qu'on peut qualifier de rationnel, celui auquel nous nous conformons spontanément lorsque nous avons quelque chose à raconter par écrit. Et l'usage inégal de l'écriture, le fait qu'elle ait toujours servi l'intérêt d'une fraction seulement de la population des successives sociétés, a produit un certain style noble, aristocratique, bourgeois, qui continue d'avoir cours. Et qui, de ce fait, couvre la voix de ceux qui vivent, sont, agissent, mais n'ont pas trouvé jamais d'accès à l'expression, à ce registre second, distinct, qu'on appelle l'expression.
Alors, est-ce qu'il y a un rapport de classe, Marielle Masset, à trouver dans l'écriture et dans la définition du style ?
Oui, alors bien sûr, c'est tout l'enjeu de la définition du style comme distinction, c'est-à-dire non plus seulement variance de la vie sur elle-même, mais force d'écart, prise de distance, violence d'écartement par rapport à un usage commun et puis par rapport à d'autres. Et Pierre Bergougnou, c'est le Bourdieu de la littérature contemporaine, c'est-à-dire il cherche à traquer partout des violences de domination dans les façons d'écrire. Ce qui m'a semblé troublant, c'est que dans ce qu'il décrit de certains gestes au travail, j'y reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il met en valeur tout autre chose. Il met en valeur au contraire des poches ou des nids de réappropriation de leur manière d'être par des sujets, de possibilités gestuelles, de façon de se rapporter à soi avec beaucoup plus de liberté que dans cette affaire du style distinctif et dominant.
Antoine Mercier.
Critique de nos formes de vie, c'est le sous-titre donc du livre. Style, au pluriel, est-ce que c'est vraiment une critique que vous faites de nos formes de vie ? Ou est-ce que c'est juste une introspection, une analyse ?
Alors oui, c'est une invitation à la critique, dans la mesure où c'est une invitation à prendre acte du fait que ce terrain est toujours nécessairement un terrain d'engagement. Que la façon que l'on a de parler, d'être, de se rapporter aux autres, de vivre sa ville, de l'imaginer, d'accueillir ou de pas accueillir, la façon d'être, c'est toujours une pensée adressée aux autres. C'est comme une pensée adressée aux autres. Et les pensées qu'on s'adresse les uns les autres, on a le droit de les juger.
Et en avoir conscience de cette pensée, c'est accepter cet engagement de façon
forte.
Parce qu'on peut en avoir conscience comme pas conscience, comme vous le dites précisément, puisqu'on n'est pas forcément conscient de ce que l'on manifeste.
Oui.
Ça change quoi par rapport à l'engagement ?
J'espère qu'un travail un peu théorique comme celui-ci, s'il a une seule vertu, j'espère que ça pourrait être celle-là. À la fin d'un très beau documentaire qui s'appelle « Les comices de l'amour » que Pasolini avait fait dans les années 60, le seul conseil qu'il donne à deux jeunes mariés, c'est qu'à votre amour s'ajoute la conscience de votre amour. Et moi, je voudrais que mon livre fasse simplement ça, qu'à notre forme de vie s'ajoute la conscience de notre forme de vie. Est-ce qu'on veut qu'elle définisse une communauté ? Est-ce qu'on veut qu'elle nous aide à faire éclater ce qu'on appelle « nous », à comprendre que ceux qui viennent sur des bateaux, sur nos rives, c'est nous. Ceux qui tombent en mer avant d'arriver sur nos rives, ce sont nos morts.
Mais pourquoi il y aurait nos formes de vie ?
Pardon ?
Ils ont des formes de vie différentes.
Ils ont des formes de vie différentes, mais ils n'ont pas la leur et on aurait la nôtre. C'est pas nous face à eux. On est traversé par ces possibilités et on est traversé par des choses qui nous, disons, qui nous arrachent et nous attachent les uns aux autres autrement que nos nationalités ou nos appartenances. Hein. On peut voir les migrants, on peut les voir aussi bien comme des héros bâtisseurs. Hein, j'entendais tout à l'heure dire, on a bâti Calais. Bah oui, ils ont bâti Calais. Ils ont bâti des restaurants. Ils ont bâti des abris, des lieux de culte, etc. Oui, on peut les voir aussi comme des héros bâtisseurs et pas seulement comme eux qui seraient tout autres et auxquels on aurait à ouvrir les yeux. Sur une forme de vie désirable.
Et ces formes de vie ne sont pas forcément individuelles ou égoïstes quelque part. En tout cas, cette prise de conscience à laquelle vous nous invitez ce midi, Marielle Masset, mais vous dites qu'on peut aussi imaginer des formes de notre vie collective, et notamment à travers le regard qu'on peut porter sur l'autre dans cette altérité, avec à l'appui cet exemple des migrants et la manière dont on a de les accueillir ou de les voir. Il n'y a pas de vie nue, écrivez-vous, mais que des vies mal qualifiées. Le style comme façon d'être ou comme forme de vie en faire non pas une doctrine ou une idéologie, mais une vérité sur ce qui nous lie à nous-mêmes, entre nous et au monde. Ça, c'est ce qu'écrivent vos confrères, l'écrivain Mathieu Riboulet, l'historien Patrick Boucheron, dans Prendre date au lendemain des attentats de janvier de novembre l'an passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette finalité qu'il ne faut pas finalement, dans la forme de vie, tenter d'en faire une idéologie, mais plutôt de révéler une certaine vérité qui va pouvoir créer des ponts entre ce que nous sommes et nous permettre de reconstituer un peu cette espèce de vivre ensemble, un mot creux, un concept un peu creux, mais qui a pourtant de l'importance.
Oui, qui devrait pouvoir devenir plein. Oui, je suis en plein accord avec ça et c'est ce que j'essayais de, ce qu'ils appellent vérité, j'essayais de l'appeler idée tout à l'heure. Et effectivement, il me semble qu'une forme de vie, c'est pas quelque chose que l'on doit brandir comme... la vérité que les autres peuvent adopter, c'est quelque chose que l'on brandit comme une idée de la vie qu'on désire et c'est quelque chose dont on doit pouvoir douter. Si j'ai encore 30 secondes, je voudrais juste évoquer à ce propos une scène qui est bouleversante du documentaire sur Lampedusa qui vient de sortir, Fuoco a Mare, le feu à la mer. Ce documentaire se penche sur des modes d'être, des formes de vie, voilà, une famille, le père marin, la grand-mère qui prépare la cuisine, l'enfant qui à l'école tente d'apprendre l'anglais, qui avec sa petite fronde essaye d'attraper des oiseaux. Le documentaire ne nous présente pas du tout cette forme de vie comme un mode d'être en péril, populaire ou que sais-je, qu'il faudrait essayer de protéger. Il nous montre comment cette famille, et notamment le petit enfant, est traversée par la présence toute voisine des bateaux qui arrivent. Et il va chez le docteur et il a à la poitrine une petite douleur, une légère angoisse, lui dit le docteur. Voilà, sa forme de vie, cette forme de vie, on va être capable aussi d'en douter.
Bon, alors le film, justement, Fuoco Mare, dont vous venez de parler, est en salle actuellement, donc est visible. Et je vous renvoie aussi sur l'entretien que nous accordait très récemment Gianfranco Rosi, son réalisateur, dans la première partie de La Grande Table, que vous pouvez réécouter. Vous avez trouvé votre style à vous, Marielle Masset, en réfléchissant à tout ça depuis tant d'années. Vous en avez pris conscience. Ça, c'est la partie d'Yvan, la dernière question de fin d'émission.
Oui, j'ai compris que je me bats avec ce tourment et que j'essaye de rendre ça appropriable.
Réfléchissons au nôtre en vous lisant, pour ceux qui le souhaitent, style avec un S critique de nos formes de vie, un ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard. Merci beaucoup à vous. Merci à vous Antoine Mercier. Et merci à toute l'équipe de la Grande Table, c'est-à-dire à Claire Maillot, Clémence Marie, Farah Kéram, Inès Magriff, Henri Leblanc et Jean-Christophe Brianchon. À la réalisation, il y avait Perret Legras avec Alex Dang. Je vous dis à demain pour une émission un peu particulière. On a rendez-vous effectivement à midi en direct sur France Culture et aussi
aussi en direct et en public au Beaux-Arts, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, avec le metteur en scène et chorégraphe Alain Platel pour la première partie de la Grande Table et pour sa pièce Nicht Schlafen. Et en deuxième partie, une table ronde autour des valeurs européennes, s'il en reste, avec notamment le philosophe Marcus Gabriel et l'académicien écrivain Jacques de Decker. À demain, tout ça dans le cadre d'une journée spéciale, hein, sur la fin de l'Europe et après en partenariat avec l'Obs. À demain.